Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de PPC Talk. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chantier 2026 qui nous occupe. Donc, qu'est-ce qu'on a cette année sur la planche? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et en même temps, bah, que ce soit Performance Max, Demand Gen, Advantage Plus et autres, on a l'impression qu'on a de moins en moins de contrôle sur les campagnes. Donc, limite, il pourrait y avoir de moins en moins de travail. Or, c'est l'inverse. Et c'est limite, le travail s'est un peu déporté sur des chantiers qui étaient peut-être laissés de côté avant. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Alexia, que j'ai le plaisir de retrouver. Salut Alexia.
Salut Maxence.
Alors, déjà, selon toi, est-ce que ça nous fait vraiment gagner du temps le fait qu'on ait aujourd'hui quasiment tous les comptes qui ont Performance Max ou Advantage Plus sur Meta pour se dire, OK, bah, ça prend moins de temps qu'avant de gérer des comptes?
Je pense que à date, ça met pas moins de temps à gérer des comptes. Par contre, on met moins de temps peut-être à faire des choses ultra opérationnelles. Je pense avant, même sur du search, si on compare à même les DSA ou à AI Max, par exemple, ou même PMax sur les outils search, on fait plus de ultra segmentation d'ad group avec juste 3 mots-clés et à chaque fois une annonce par ad group. Je pense que ça, là-dessus, on gagne en temps et en efficacité parce qu'on peut mettre plus de mots-clés pour une seule RSA, par exemple, ou juste PMax avec les asset group. Mais pour autant, il y a quand même encore pas mal de choses à faire dans un compte. Et je dirais même, du coup, ça demande de débloquer des enveloppes de projets beaucoup plus conséquentes que ce qu'on pouvait avoir avant. Et du coup, on va surtout se retrouver à travailler avec d'autres équipes, comme l'équipe CRO, l'équipe mailing, l'équipe IT aussi souvent, même si on peut avoir des petits outils pour essayer de se débrouiller encore seul.
Ouais, c'est vrai que on avait l'épisode pilote de PPC Talk, d'ailleurs on mettra le lien juste ici ou la miniature juste à côté, où on parlait du flux produit et de l'importance aujourd'hui du flux produit dans tout ce qui va être décision, que ce soit sur Google Shopping ou sur Meta finalement avec les campagnes catalogue. Et c'est un élément où ça demande des bonnes connaissances en produit notamment, comprendre okay, bah, quel produit on va pousser, quels sont les fameux héros, les vilains, pareil on pourrait y revenir sur ces sujets-là. Mais du coup ça demande des compétences beaucoup plus transverses que ce qu'on appelait à un moment... un peu archaïquement, le media buying. Je voudrais plutôt parler de traffic management, une sorte d'aiguillage là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ces campagnes automatiques, il y a quand même énormément de travail déjà pour les maintenir, finalement. C'est plus forcément écrire des titres, même s'il y en a toujours, mais écrire des titres, des descriptions, exclure des mots-clés, ça on l'a sur le search encore, mais sur PMax, c'est des exclusions un peu différentes. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte et limite on pourrait tout faire parce que ce soit sur la data produit, la data de conversion, les éléments on-site, il y a beaucoup de choses à alimenter dans la machine. Comment tu priorises quand tu audites ou tu reprends un compte, admettons, comment tu priorises en disant ok, on a des gros sujets produits, on a des gros sujets data, comment ça se passe?
Alors moi, je me suis fait mon propre système de diagnostic, mon petit OS que j'aime beaucoup. C'est brique par brique. C'est pas la pyramide des besoins de Maslow, mais c'est la pyramide de mes besoins, du coup, pour bien piloter. Du coup, je pense que pour moi, ma première brique, c'est tout ce qui est measurement, donc la partie vraiment data. Premier truc que je regarde dans un compte, c'est le tag est bien installé. Il y a le serveur. Donc il y a le tag qui est bien installé, le suivi avancé des conversions et le consent mode V2. Option server-side selon les comptes qu'on peut avoir, les plus petits comptes, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, c'est un calcul de coût à faire. Donc, ma brique data, avoir aussi les bons reports aussi en face, que ce soit via des clés API, c'est là aussi on retrouve l'automatisation, ou les connectiques Looker Studio. Moi, mon pire cauchemar, c'est de devoir analyser dans la plateforme. Parce qu'en fait, juste dans la plateforme, on va cliquer sur un bouton, on va voir un autre truc, on va partir ceci. Et je trouve qu'on perd vachement le sens même de l'analyse, qui est le pourquoi déjà je la fais. Et je fais pas juste une analyse parce que en fait, ça va pas. Donc pour moi, il y a toute cette brique de data. Et après, je vais petit à petit. Est-ce qu'en fait, j'ai un problème de trafic? Bon, bah, je regarde mes impressions, mes clics, et du coup, l'indicateur, d'autres clics. Ça, c'est ma première brique. Ensuite, bon, je vais aller des clics vers la conversion. Bon, bah, je vais regarder le taux de conversion. Puis petit à petit, je vais regarder bon, bah, le panier moyen. Et je vais arriver petit à petit à ma valeur de conversion et mon ROAS. Sur des comptes avec un peu plus de gymnastique produit, bah, forcément que je vais m'intéresser à ce qui est des ruptures de stock. Et du coup, c'est ce qui est en train de perturber mes campagnes. Est-ce que j'ai des niveaux de marge aussi à inclure dans mes segmentations? Parce qu'en fait, on peut vendre beaucoup de produits, mais en fait, si on marche pas, bah, on fait pas de profit. Donc, le ROAS, c'est bien, mais le profit, c'est mieux. D'ailleurs, l'indicateur de POAS qui existe vraiment pour ça. Donc moi, ouais, j'ai tout construit tout mon système, et selon ces éléments, bon, bah, je sais que par exemple, sur un problème de conversion, ça peut être soit un test d'URL produit que je peux tester, ou alors ça va être d'autres optimisations. En fait, est-ce que le clic était pas trop clickbait et ça demandait trop de... ça faisait cliquer trop de touristes, en fait.
Ouais, t'as des éléments, en fait, où en fonction du niveau de maturité, t'as une contrainte spécifique au compte. On retrouve un peu la notion de théorie des contraintes dont on parle parfois, mais avec... Ok, bah, s'il y avait une chose à faire, une chose à lever, ce serait quoi pour faire passer le compte au niveau supérieur? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse universelle. Ce qui me fait d'ailleurs bifurquer vers un élément, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de templates prêts à l'emploi, d'audits. On voit sur LinkedIn commenter audit, commenter Claude, commenter barbecue, et vous aurez ma recette secrète pour un barbecue réussi. Comment tu penses que ça s'adapte aujourd'hui? Est-ce que c'est adapté finalement, ces éléments-là, par rapport à ce que tu nous dis sur l'état du marché du paid d'aujourd'hui, où en fait, mes problèmes ne vont pas être les problèmes du voisin, mes priorités ne vont pas être celles du voisin. Là où ça a toujours été comme ça, moi, vu de ma fenêtre en tout cas, ça fait 15 ans que je fais du web, mes priorités n'ont jamais été les mêmes que celles des camarades CMO avec qui je pouvais parler. Il y a eu toute une phase depuis genre Covid où on nous disait « Non, non, appliquez ça, textbook, suivez le manuel. » En fait, ça, c'est un peu une connerie quand même.
Bah oui, pour moi, c'est de la connerie. Alors, le seul template, c'est si on n'a vraiment pas de Looker Studio, avoir un template de Looker Studio SWAT pour avoir justement impression, clic, taux de conversion, etc. Avoir son funnel par pilier, ça, c'est des choses qui se font. Moi, je trouve que LinkedIn, on s'y perd. Et il ne faut pas chercher non plus le shiny object et le truc hyper intéressant, hyper de niche. Je suis pas sûr que ce soit si efficace que ça, parce qu'en fait, effectivement, c'est ce qu'on disait juste avant, hein, si on n'a pas identifié la contrainte, moi je vois, des fois j'audite et je me retrouve avec « Ah, il faudrait faire plein de créa, etc. » et c'est les retours d'audit qu'il y a. Bah oui, mais alors je dis, tu peux faire autant de créa que tu veux, hein, mais t'as surtout un gros problème sur ta conversion. Donc tant que tu l'as pas résolu, de toute façon, tes créa... bah, elles vont forcément avoir un biais négatif dessus en data, quoi. Donc, je trouve que moi, LinkedIn, je m'y perds un peu moins. Et je rationalise encore plus et je trouve qu'on est tout aussi efficace. Et je trouve que c'est encore plus dangereux maintenant à l'arrivée de Claude, etc. Enfin, ce week-end, combien de personnes j'ai vu faire commenter Claude pour avoir des audits instant, etc. Moi, j'ai toujours ce truc de qui ? À qui tu donnes la data aussi, des grosses, grosses vigilances là-dessus. Moi, je sais qu'en interne, interdiction de faire ça. Enfin, c'est nos clés, nos propres outils. On ne se retrouve pas avec des solutions tierces. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une déviance qu'on a avec l'IA. Mais donc, ouais, LinkedIn, je l'ouvre pas trop.
Intéressant. Et en fait, il y a un double intérêt, c'est que d'un côté... Tout le monde aujourd'hui a ses PMAX, a ses Advantage Plus, etc. Et du coup, c'est comme si, on va dire, tout le monde avait le même véhicule de départ. Et ce qui va changer, c'est quel est ton crew autour qui va savoir gérer, je sais pas, la pression des pneus, qui va savoir gérer le carburant, qui va savoir gérer l'aérodynamisme. Ben non, parce que ça, ce serait le véhicule. Mais bref, qui tu as autour de la machine pour la faire avancer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, même les plus petits annonceurs sur Google vont avoir les moyens de faire du PMAX et d'avoir accès à un algorithme qui est soi-disant plus puissant que ce qu'on avait avant. On pourra faire aussi un point un peu dédié sur standard shopping versus PMAX, est-ce que c'est bien ou pas. Mais finalement, tout ce qu'il y a autour, c'est là où tu crées la valeur, que ce soit le flux produit, on en avait parlé la dernière fois. Sur la partie conversion et base client, c'est un autre point d'intérêt, je trouve. Et ça, pareil, c'est un travail qui est beaucoup plus en coulisses, où tu vas commencer à travailler même avec du CRM et autres. Comment tu gères la complexité? Parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec du temps homme à gérer finalement, parce que tu pourrais très bien gérer un projet de data layer en même temps qu'un projet de croisement de base client, même s'il y a eu des amendes qui ont été données sur la gestion des bases là-dedans, mais bref. tu pourrais te retrouver là-dessus, sur un projet de resegmentation produit. Comment tu envisages les choses sur un compte qui est costaud, on va dire, qui mérite d'avoir plusieurs choses en même temps. Là, tu peux te retrouver avec, oui, il y a une grosse contrainte, mais tu as beaucoup de run, tu as beaucoup de backlog où tu dois travailler au quotidien ces éléments-là quand même, en fait. Donc, comment tu organises tout ça?
Moi, ce que j'ai tendance, quand je dis, c'est que je liste un peu tout ce qu'il y a à faire, déjà de manière, entre guillemets, individuelle, par pilier. Et par exemple, des recommandations d'audience, bon, bah, je vais lister connecter les données GA4, connecter la base de mailing, sur Meta, créer toutes les lookalikes. Et en fait, potentiellement là, déjà, je vais parler à deux, voire trois personnes différentes. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est de vraiment tout lister. Déjà, à chaque fois que je vois quelque chose, je le liste. Et seulement après, je me pose la question de, ok, à qui je l'attribue? Donc, c'est ce que vient un RACI. C'est qui est le responsable, qui est accountant pour ça, donc qui est la personne sur qui on va, entre guillemets, taper si ça n'a pas fonctionné, qui est consulté s'il y a besoin d'informations supplémentaires et qui est informé, donc il n'y a pas besoin d'intervenir, mais qui doit avoir ces informations-là à dispo. Donc moi, ma strat, c'est je liste tout, ensuite j'attribue un RACI et après je vais me dire, ok, bon, bah, potentiellement pour un gros compte, ils ont une très grosse base client. Je sais que connecter les données CRM, ça va prendre un temps de dingue. Bon, bah, c'est l'une des premières choses que je vais donner à l'équipe CRM. Ça va peut-être prendre 3 mois à être connecté parce qu'il va falloir mettre un Zapier, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je fais ce que je suis autonome sur le compte pour pouvoir l'optimiser. Par exemple, refaire la segmentation des PMX, optimiser des titres, faire du sanity check, ce genre d'éléments-ci. Mais du coup, je croise avec la contrainte que ça peut avoir. Et aussi parce que, bah, dès qu'on joue en audit, je parle aussi à beaucoup d'équipes avec des grosses directions marketing. Donc je sais vite là où ça peut coincer. Typiquement, si j'ai des actions CRO, des fois je ne suis même pas forcément prête à, s'ils font la chose tout de suite, à pouvoir l'implémenter, parce que je n'ai pas fait mes segmentations, mes PMX, etc. Mais en fait, je lance le projet tout de suite parce que je sais qu'ils sont débordés, il va falloir prioriser le projet pour que ce soit implémenté.
Ouais, tu as un gros sujet, gestion des roadmaps et gestion de projet qui est devenu encore plus important. Tu as des éléments aussi sur les priorisations. On parlait de la contrainte actuelle d'un compte, mais tu as aussi les ambitions business. Je prends l'exemple, on a un compte qui voulait piloter au coût d'acquisition de nouveaux clients et plus spécifiquement même au coût d'acquisition d'un nouveau client, donc le NCAC et pas juste le CAC. Et en fait, ça demande quand même une architecture de données qui n'est pas présente sur tous les comptes, qu'il a sur le compte auquel je pense qu'il ne l'est pas. Et si tu ne te mets pas en route et si tu ne parallélises pas les éléments qui peuvent l'être, tu vas te retrouver effectivement avec des projets qui vont durer des plombes et qui ne vont pas être cohérents avec ce qui est attendu et les budgets qui ont été débloqués sur tel ou tel sujet. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, bah, en fait, c'est l'exercice qu'on fait quand on onboard un nouveau client, c'est la cartographie des assets, de dire, ok, bah, en fait, qu'est-ce que vous avez à dispo aujourd'hui, que ce soit en agence externe déjà présente, que ce soit des consultants que vous avez déjà dans l'écosystème, votre équipe marketing qui est présente, mais aussi, est-ce qu'elle est dispo côté produit, est-ce qu'elle est dispo côté CRM, est-ce qu'elle est dispo côté direction IT, comme tu disais, surtout si ça touche à du data layer et autres. Donc en fait, ça c'est un travail qui est aujourd'hui, étonnamment, au cœur de ce qu'on est capable de faire en acquisition. Et je trouve ça, c'est un petit changement, parce qu'avant l'acquisition, entre guillemets, tu avais ton tracking, tu étais autonome sur 80% des éléments, là où aujourd'hui, tu vas plutôt avoir le rapport inverse, où si tu n'es pas capable d'avoir les bonnes infos produits et autres, tu vas être dépendant sur 80% des éléments. Alors, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps, mais tu as besoin de faire vivre l'acquisition au sein de l'entreprise et que l'info circule vite.
Et ça, c'est ma plus grosse contrainte, entre guillemets, aujourd'hui. Là où avant, la personne en ads, elle travaillait un peu seule de son côté, ben en fait, là, tu te retrouves à parler et à partager des informations avec les équipes produits, les équipes data. Et en fait, le problème, et moi, c'est quelque chose que j'ai, mais je pense 2 à 3 fois semaine par moment encore, surtout quand au début, quand je commence à implémenter des choses, c'est... Ah mais tiens, quand j'ai tapé telle requête, j'ai pas ce produit-là qui ressort, pourquoi j'ai le produit en rose alors je vends plus en noir, et pourquoi c'est un quadrupixel alors que mon produit phare c'est le M, plein de genres de contraintes comme ça. Et en fait, c'est là où moi, je mets vraiment un raccourci, et pour moi, c'est hyper important. C'est qu'en fait, je les consulte, ces personnes-là. Ils me disent quels sont les produits pour eux à mettre en priorité. Alors souvent, les équipes produits, c'est parce qu'ils ont acheté plein de stocks et qu'ils veulent vite s'en débarrasser. Donc, il y a aussi toute la pédagogie de dire que bon, bah, non, c'est pas forcément le produit qui sera acheté et c'est pas un best-seller à coup sûr. Tu peux faire des petits boosts, etc. Mais tu vas pas venir perturber toute une segmentation de compte juste pour 3-4 produits. C'est pareil, moi j'ai mis énormément de points de vigilance sur la différence entre le produit cliqué et le produit acheté. Parce qu'en fait, on peut faire très bien 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit, donc de revenus attribués à ce produit-là, alors que en fait, on n'a peut-être fait que 250 euros d'achat sur ce produit-là. Et c'est là la grosse vigilance aussi à avoir, parce que pour moi, c'est ce que j'appelle des portes d'entrée. Donc c'est la porte d'entrée à ton site, ok, les gens vont acheter autre chose, mais si en côté ads tu commences à couper ça, bon bah quelle est ta porte d'entrée? Ben c'est pas forcément ça. Surtout quand on est revendeur de produits et que d'autres concurrents sont mieux positionnés.
Ouais, t'as l'effet produit dans la vitrine versus le produit réellement acheté. D'un côté t'as ça, et t'as aussi... Ce qui me fait penser, c'est que tu as quand même une méconnaissance assez générale, et ça demande beaucoup de pédagogie aujourd'hui, notre métier, pour dire, ok, mais en fait, comment fonctionne un algorithme publicitaire ? Chose qu'avant, on expliquait les enchères, ainsi de suite. Là, à la limite, les enchères, on est moins obligé d'expliquer ça. Par contre, on est obligé de montrer que une PMAX, une shopping même classique qui est pilotée au Target 3, ainsi de suite, comment ça fonctionne ? En fait, c'est de la donnée en entrée, ça va utiliser le budget, moi je dis souvent, comme du carburant, et en fonction de ça, ça va avoir des signaux de renforcement positif ou négatif. Il y a eu un achat, il n'y a pas eu d'achat, et au fur et à mesure, tout comme un chien qu'on va éduquer, et petit à petit, bah, il va faire les bonnes actions et moins les mauvaises, bah, en fait, ils vont mettre le budget au bon endroit et pas au mauvais endroit. Et effectivement, si on pilote au ROAS ou à la valeur de conversion, ou même au POS, hein, le Profit on Advertising Spending, qui est le même que le ROAS, mais sur la marge, au final, c'est des jeux de volume. Et donc, oui, il y aura toujours une partie du budget qui est là pour du learning, pour du testing. Par contre, grosse maille, l'algorithme va commencer à comprendre, et c'est pas sur des micro-optimisations que ça va changer. Si on comprend que le produit fait ni vente croisée, ni achat en direct, et évidemment, lui, on ne se pose pas forcément la question. Par contre, c'est vrai qu'un produit qui a peut-être un faible panier, qui a peut-être une faible marge, ça arrive souvent sur le POS, des produits qui sont à faible marge, mais qui sont des petits pains, comme on dit, parce que ça se vend assez facilement, ça se vend vite. Et ce qu'on minimise aussi là-dedans, c'est le fait que ça fait du nouveau client. Alors, ça dépend comment on a configuré les éléments, mais se dire, ok, bah, s'il y a des produits qui font rentrer des personnes et qu'on a une LTV, une lifetime value qui est assez forte, donc la valeur d'un client sur toute la période où il va être client chez nous, bah, en fait, on va finir par le rentabiliser. Et parfois, mieux vaut faire un pour un, de dire, ok, bah, un coup d'épée dans l'eau, mais un, ça fait du volume, donc ça permet d'avoir peut-être des meilleures conditions d'achat, ça fait en baser un client qu'on va pouvoir resolliciter derrière, et le deuxième achat, on va être full marge, et ainsi de suite. Bah, tous ces éléments-là, si on ne les prend pas en compte dans l'acquisition, et si... Deuxième point, la campagne ne le sait pas et ne le voit pas. On passe à côté d'énormément de choses d'un point de vue gestion publicitaire aujourd'hui, je pense.
C'est sûr, je pense que c'est l'un des... Peut-être des plus grands soucis qu'on peut avoir, c'est le micromanagement des campagnes, en fait, où on fait plein de choses, à la fin, on ne sait pas ce qui va, potentiellement, en plus, il y a des drops de performance qu'on observe. Ça, c'est pareil, c'est vraiment... Ah ben, j'ai pas fait une bonne journée, j'ai divisé mon budget par deux, j'ai remis 3 points de ROAS, et j'ai changé ma sélection produit. Ça existe encore. Donc c'est aussi ça, il faut faire hyper attention à ce qu'on fait, surtout qu'en plus, c'est très réactif comme réaction, là où déjà Google va mettre au moins une journée, un changement de budget va être au moins une journée à le comprendre. Il y a plein d'autres techniques pour booster rapidement un budget, comme l'ajustement de ses os. Donc il faut faire hyper, hyper attention. Et en fait, c'est toujours challenger le pourquoi. Et est-ce que je sers réellement mon compte ? Parce que comme on le disait au début, il y a forcément une contrainte avant tout. Et tant qu'on n'a pas taclé ça, de toute façon, ça ne viendra pas l'optimiser. Après, je pense que PMAX, Demand Gen, les ASC sur Meta, ça reste des coquilles, c'est un engin. Et après, ça dépend effectivement de ce qu'on y met dedans. Le tout aussi, c'est qu'un jeune chauffeur... va pas conduire une Formule 1, je pense qu'il saura pas la démarrer.
Ouais, ce qui est intéressant aussi sur ces coquilles là dont tu parles, c'est que on parlait du renforcement positif-négatif, et en fait, ce qui se passe, c'est aussi quand on vient modifier trop vite des éléments, ou trop d'éléments à la fois. Alors, Meta, maintenant, nous le dit, si on augmente trop drastiquement le budget, il nous dit que ça va redéclencher un apprentissage. Je trouve ça pas mal pour le coup, côté Meta, étonnamment. Je suis souvent anti-Meta sur l'interface, mais ça, pour le coup, c'est une bonne modif. Ce qui est parfois, on va dire, minoré ou pas pris en compte, c'est que si on fait plein de modifs d'un coup, tout cet exercice de renforcement positif-négatif pour lequel on a mis du budget, on a mis du carburant pour s'acheter cette donnée, en fait, on peut vite casser des éléments, sachant que déjà, oui, c'est des algorithmes publicitaires surpuissants, géniaux, si on écoute les chargés de compte, mais parfois, il arrive quand même, on n'a rien demandé à personne, une campagne PMax va se décider d'un coup à aller sur Discover, parce que c'est comme ça. Et effectivement, après, on peut faire des exclusions d'emplacement, parce qu'avant, il allait beaucoup sur le display aussi. C'était le but de Google de rentabiliser cette partie-là. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que, tiens, mais il y a un moment de testing qui va être fait, et une campagne qui allait bien jusqu'ici, d'un coup, va partir en cacahuète. Je trouve ça assez
étonnant. Généralement, c'est qu'il y a un signal quand même. Ouais, ça m'arrive souvent. Je dis, ouais, il y a une raison pour laquelle... La campagne, elle est partie une journée ou deux sur du Discover. Puis en fait, j'apprends que potentiellement, le site, il a micro-coupé plusieurs fois dans la journée. Ou des waitlisting, des adresses IP sur le flux produit, donc des petits soucis sur le flux produit. Et effectivement, souvent, les dérives, on arrive quand même à trouver l'origine. Pour autant, aussi, ce qui est hyper important, c'est de l'identifier au plus vite, quoi. En plus, maintenant, il y a tellement d'outils et là, de scripts où, pareil, on met des couches d'automatisation. Mais pour moi, il n'y a pas au moins une semaine sans laquelle, et moi, je regarde même trois fois par semaine, pour savoir vers quoi ta PMax, elle diffuse, surtout si tu es en full asset. Il n'y a pas photo là-dessus. Pour moi, c'est un impératif d'être très, très qualitatif là-dessus. Parce que pour moi, une bonne campagne performance max, elle diffuse à minima à 80% sur le flux produit. Et c'est vraiment à minima. J'aime bien quand elle est plutôt à 90%. J'ai tendance à la laisser en feed only, donc juste la partie shopping. En fait, il suffit de mettre de titre, de description, d'image et de vidéo. Et de juste lancer comme ça. Elle va se mettre du coup en shopping, en désactivant aussi les assets automatiques. C'est pareil, très important. Des fois, les campagnes ont le nom de feed only que le nom. Ça, c'est pareil, c'est un des classiques aussi en audit. Mais du coup, de faire hyper attention vers quoi sa campagne elle va, vers quel budget aussi on tend. Parce que moi, je reste assez partie prenante de... c'est très bien de faire de la notoriété du trafic, mais il faut d'abord faire de la conversion. De toute façon, quand il y a des restrictions de budget, souvent, c'est la première campagne qu'on coupe. Ça va être une campagne YouTube ou de Demand Gen. Sur Meta, ça va être une campagne pareille de Wordness. Donc, c'est aussi bien connaître son compte et vers quoi il diffuse. Et après, je pense qu'on le sous-estime. Parce qu'en même temps, quand on a peu de volume, c'est compliqué. Mais un GA4 aussi, c'est quand même bien assez efficace pour Google Analytics. Pour tout simplement savoir aussi quel trafic on amène, quelle est la conversion aussi réattribuée. Ça, je pense que ça va être aussi un gros challenge de l'année 2026. Je pense que l'attribution... On a été prêts il y a quelques années, il y a eu pas mal d'évolutions et pas mal de révolutions, la crise de panique aussi sur Google Analytics, enfin bref. Mais donc je pense que l'attribution aussi, elle va être un gros gros enjeu avec les campagnes.
Ouais, je pense que l'attribution, ça mériterait un épisode dédié d'ailleurs, parce que c'est important de comprendre que les parcours clients se sont densifiés et ainsi de suite. On pourra limite y dédier le prochain, je sais plus quelle thématique on avait, mais on doit pouvoir intercaler. Et... Ce qui est assez dramatique, je pense, par contre, sur le SAV des PMAX, si on peut parler de ça comme ça, c'est que du début, moi je me souviens même chez Ticket, j'avais eu des soucis sur des campagnes qui étaient parties à 75% sur display sur une journée, et sauf que c'était à l'époque où on ne l'avait pas dans l'interface, puisque la partie où on peut reporter les canaux est quand même assez récente relativement à PMAX, qui date de 2020 en bêta, si je ne dis pas de bêtises. Et 2021 pour le commun des mortels. Et comme on n'était pas censé le savoir, mais qu'on avait le script de Mike Rose, qui permet toujours aujourd'hui de savoir où on a vraiment diffusé, bah en fait, tout ce qui était account manager, et pourtant on était bien suivi, nous disait, bah en fait, oui, mais ça, comment vous le savez? Vous ne pouvez pas le savoir, machin. Alors qu'en plus, c'est une donnée qui était, oui, via un script de Mike Rose, mais qui tape quand même sur l'API Google Ads. Donc ça restait une donnée Google Ads. Donc il y avait un manque à ce niveau-là qui créait quand même de la défiance vis-à-vis de PMax, ou parfois, alors peut-être comme tu dis qu'il y avait eu un problème de flux produit, un ceci, un cela, je sais pas trop, mais parfois, tu as quand même des moments où ça dérape et que tu regardes à la journée ou à la semaine, tu vois quand même des fois des choses où tu dis, mince, c'est pas normal, il se passe quelque chose et tes options sont limitées de par la nature ultra automatisée de la chose.
Ouais, complètement. Mais heureusement que maintenant, on arrive quand même à avoir des petites exclusions et autres. Et faut que ça continue en termes de reporting. C'est là où tu vois toute l'importance du reporting aussi.
Ouais, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus d'éléments aujourd'hui pour décortiquer PMax. Pareil, ça, on pourra en parler pendant des heures, mais la fameuse boîte noire, elle est plus très opaque aujourd'hui. Au contraire, elle est plutôt bien translucide puisque Google a bien compris la levée de bouclier. Mais effectivement, et on reboucle là-dessus, c'est que PMax ne peut faire aussi bien que par rapport aux matériaux qu'on lui fournit. C'est-à-dire que si on ne donne pas les données clients, si on n'a pas un data layer qui est bien fourni sur le site, si on n'a pas un flux produit qui est nickel, comme on disait dans un épisode précédent, ça va être compliqué, ça va potentiellement marcher, puisque à la fin, ça reste du renforcement positif et négatif. Par contre, l'usage du carburant va être bien différent. Ça veut dire qu'on va potentiellement dépenser beaucoup plus ou avoir un ROAS inférieur à notre plein potentiel. Et ça, c'est des éléments, et on pourra boucler sur ça pour finir, mais le fait que ce ne soit pas hyper présent dans les interfaces montre quand même qu'il y a une espèce de distanciation de Google et de Meta par rapport aux vrais attendus et aux vraies mécaniques de pilotage publicitaire qu'on va avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu suis à la lettre tout ce que dit Google, si tu suis à la lettre tout ce que dit Meta, tu n'as pas fait le travail nécessaire et suffisant pour faire en sorte que ta campagne tourne au mieux. Ça, je trouve ça assez dingue aujourd'hui, parce que effectivement, c'est peut-être ça qui a provoqué, parce que c'est assez concomitant avec PMax et Advantage+, le fait que tout le monde va sur LinkedIn chercher des manettes, va sur YouTube, etc. Et comme l'info ne vient plus des plateformes, les personnes ne savent pas, entre guillemets, à quel sens se vouer, et il y a quand même un drama, sans faire le vieux con, mais où il y a beaucoup moins de gens qu'avant qui ont un avis et un parti pris. Les gens ont plutôt tendance à vouloir voir ce que fait le voisin, à vouloir grignoter de l'information. Et on en vient à cette course folle au lead magnet et à l'audit templétisé et au commenter Claude pour avoir les meilleures recettes de barbecue. Sauf que c'est du essai et erreur, on va dire, la façon qu'on a d'avancer. Et il n'y a pas de recette unique, comme on disait. Mais c'est assez dingue, pour le coup, que Google reste à fond sur ses recos classiques de augmenter le budget, utiliser IMAX, ainsi de suite. Meta, ça va être mettez une seule campagne ESC et puis faites plein de créa. C'est assez dramatique. C'est pas le niveau, mais les outils à disposition ou ce que le commun des mortels, ou on va dire si on devait redémarrer de zéro demain, comment on démarre, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'aller chercher les bonnes infos et de déminer le bon grain de livret.
C'est sûr que si là je commence un e-commerce, j'écoute tout sauf les recommandations de Google et de Meta, parce qu'en fait aussi juste, il faut pas oublier, ils ont tout intérêt à ce que tu mettes plus de budget, plus de campagnes, etc. D'autant plus des campagnes où tu n'as à disposition aujourd'hui que très peu d'informations. Je pense à AI Max qui vient se placer sur certains emplacements, etc. Déjà c'est à peine disponible en France, voire pas, en tout cas pas pour tous, donc moi personnellement je l'ai jamais eu, je connais pas spécialement les parcours aussi là-dessus, ils ont pour moi tout intérêt à faire diffuser là où en fait ils donnent que très peu de data.
Ouais, c'est assez dramatique, et à part se faire sa propre opinion, mais ça demande beaucoup plus d'efforts que juste télécharger un PDF, bah en fait le chemin pour arriver à la vérité entre guillemets est beaucoup plus complexe qu'avant. Et là où on a enfin je l'avais déjà avant, on va dire, parce que chez Tikimon on avait quand même 7 pays, donc tu peux build un peu plus vite et tu peux faire des tests différents par pays, tu peux te faire des convictions et tester des choses à droite à gauche. Ça reste des pays différents, des marchés différents, mais au moins tu testes un type de campagne, tu testes de changer l'objectif de conversion, ainsi de suite. Bah, le fait en agence d'avoir pas mal de use cases de clients différents, tu peux aussi avoir des tests que tu vas venir roll out sur plus de monde d'un coup. Là où aujourd'hui, tu reprends une boîte qui fait, je reprends même le ticket de l'époque, hein, de 2012, quand j'étais arrivé, tu fais 2 millions, tu as deux pays, on avait que deux à l'époque, tu es tout seul avec bah, tes petits bras et ton petit budget. Enfin, il était déjà significatif quand même, mais tu as un budget qui est limité par nature. Le moindre test, la moindre hypothèse que tu vas poser va te demander un effort d'apprentissage à titre individuel, ce qui est OK, et va te demander un effort budgétaire. Et c'est beaucoup plus compliqué, ouais, d'aller. Le coût, en tout cas, d'une hypothèse foireuse est aujourd'hui, je trouve, plus costaud qu'avant, aussi parce que, comme on disait, tout est automatisé à outrance, et donc tu as moins facilement accès aux bonnes informations si tu n'as pas les réflexes. Donc ça, c'est une orientation assez intéressante du marché de la pub, je trouve.
Ouais, je pense que tu as des courbes qui se croisent entre justement le niveau technique et ton budget publicitaire, justement. Où tu as une zone où si tu as un peu moins de compétences et de connaissances sur la plateforme en elle-même et un petit budget, effectivement, ça va être assez compliqué. Surtout dans le contexte bah, 2025-2026, ça devient quand même gros, globalement dans pas mal de secteurs un océan assez rouge. Donc c'est aussi compliqué de renaviguer en océan bleu, surtout face à des plus petits, surtout avec les marketplaces aussi qui sont maintenant bien présentes, surtout sur Shopping.
Ouais, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est intéressant et de se dire, ok, bah, en fait, il n'y a pas de recette unique, si on devait résumer. Il faut se faire ses propres idées. Les optimisations ne se passent pas dans les comptes publicitaires. Il faut un écosystème de données, un écosystème de projets aux alentours qui vient booster justement l'acquisition payante. Et ça, c'est des éléments que je trouve assez intéressants et qui rendent passionnant, on va dire, le métier qu'on fait. Donc, ça demande quand même d'être beaucoup plus en veille à ce que vous faites si vous écoutez le podcast. Et c'est le but aussi de partager plus de lumière sans faire des dogmes aussi. C'est ce qu'on essaye de faire dans ces discussions avec Alexia. Donc si ça vous plaît, évidemment, abonnez-vous pour ne pas louper les épisodes à venir. Mais si vous avez des questions, des thématiques particulières, nous, on est très friands d'avoir ce genre de discussion pour pas forcément vous donner les réponses, malheureusement. C'est plutôt de justement poser les bonnes questions, d'ouvrir les chakras et de faire avancer le débat finalement. Il n'y a pas de recette miracle. J'ose espérer que vous l'avez compris. On n'est pas là pour faire les gourous, pour écouter les gourous non plus. Donc cultivons l'esprit libre et retrouvons-nous très vite dans un prochain épisode de PPC Talk. Merci beaucoup Alexia pour tous tes insights.
Avec plaisir.
Et à très vite.